pas encore l'encyclique du Saint-Père sur la Vierge Marie. Je ne vais pas vous en parler ce soir. Une fois, on fera regarder. On va continuer notre cher Saint-Jean de la Croix pour aller plus avant. Et le comprendre par là mieux, le mystère de la contemplation de Marie. Donc nous étions à la troisième strophe, aux lampes de feu, dans les splendeurs desquelles les profondes cavernes du sens, qui étaient obscures et aveugles, donnent avec une perfection extraordinaire chaleur et lumière, tout à la fois, alors bien aimé. Nous étions restés les profondes cavernes du sens. On avait vu un peu comment, dans cette strophe, Saint Jean de la Croix souligne, l'âme exalte son époux et lui rend grâce des hautes faveurs qu'elle reçoit de son union avec lui. C'est un magnificat analogue au Cantique des Cantiques. C'est par là, comme elle le reconnaît, que lui sont venues de nombreuses connaissances sur son être, qui sont toutes pleines d'amour. Dans une connaissance affective, plus on s'approche de Dieu, plus on se connaît soi-même, plus il y a une connaissance intime de nous-mêmes. Et comme il y a un jugement de sagesse au niveau philosophique, il y a un jugement de sagesse, alors, qui va encore beaucoup plus loin, au niveau mystique. Quand, de l'intérieur, par l'amour, nous pouvons saisir et découvrir ce qu'est Jésus pour nous, ce qu'est Dieu pour nous, nous découvrons par le fait même, d'une façon toute intime, ce que nous sommes relativement à Dieu. De telles connaissances sont éclairées et remplies d'amour ces puissances et ces sens eux-mêmes qui, avant l'union, étaient obscurs et aveugles. Désormais, toutes ses facultés étant éclairées et embrasées d'amour, elle peut mieux connaître et aimer celui qui l'a tant comblé de ses dons. Le véritable amant n'est pas heureux si tout ce qu'il est en soi, tout ce qu'il vaut, possède ou reçoit, il ne l'emploie pour le bien-aimé. Plus il possède et plus il est heureux de le lui donner. Tel est le motif pour lequel l'âme se réjouit ici, car vu les splendeurs et l'amour dont elle est l'objet, elle peut à son tour resplendir devant l'époux et l'aimé. Voici aux lampes de feu. Donc, c'est cette intimité d'amour qui est exprimée ici entre celui qui aime et l'aimé. Et que cette intimité d'amour qui est en premier lieu entre le cœur de la créature et le cœur de son créateur, cette intimité s'empare de toute la pâte humaine. Et c'est cette pâte humaine qui est complètement transformée par cet amour, qui est lumière et amour. Alors, les profondes cavernes du sens, ces cavernes sont les puissances de l'âme. Remarquez disais tout à l'heure, combien saint Jean de la Croix ne cesse de parler de l'âme. Il ne parle pas de la personne. C'est aussi important d'avoir un tout petit peu le sens de ça, puisqu'on a soulevé le problème. C'est très important de voir qu'un mystique parle de l'âme. Dire, hein, c'est un néo-platonicien, donc. C'est pas à cause de ça. C'est à cause de l'expérience intime. Et de l'intimité, de l'expérience d'amour dont il vit et en laquelle il se trouve. Alors c'est l'âme, c'est pas la personne. Tout le point de vue de la grâce creuse une intimité. Mais je ne crois pas qu'on pourrait. En disant, oh, mais c'est son temps. Son temps parlait encore de l'âme. C'est vrai. Surtout dans le courant où il était. Je ne crois pas. Je crois que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Il faut y penser. Parce que c'est toute une conception. Quelle est la conception de l'âme que jeune saint Jean de la Croix. Voilà une très belle thèse aussi. Hein. Je vous en donne comme ça exprès. Pour que vous puissiez choisir. Une très belle thèse à faire. Genre. Quelle est la conception de l'âme dans saint Jean de la Croix. Il y aurait toute une vision ici, comme vous allez le voir maintenant, qui est très très belle. Ces cavernes sont les puissances de l'âme, la mémoire, l'entendement et la volonté. Bon, ça c'est très augustinien. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Il y a la mémoire, l'entendement et la faculté. Alors, voyez pourquoi saint Augustin donne cette trilogie. À cause de l'image de Dieu. Et ça repose directement sur l'image de Dieu. Et la mémoire, c'est l'analogue du dominium. Dominium, intelligence, amour. Saint-Augustin, mémoire, entendement, intelligence. Saint Jean de la Croix dit entendement. C'est très curieux. J'aime mieux intelligence. Entendement, c'est déjà quelque chose d'un tout petit peu à côté. C'est curieux. C'est très très curieux. Mémoire, entendement, volonté. Donc, c'est la trilogie chrétienne. La trilogie chrétienne de l'Imago Dei. C'est pas autre chose que ça. Donc, ce n'est pas du tout une question de, qu'on pourrait dire, d'ordre néo-platonicienne. Non. C'est chrétien. Et ça fait partie de ce patrimoine chrétien de l'image de Dieu qui implique les trois. Elles sont d'autant plus profondes qu'elles sont plus capables de recevoir de grands biens. Pour se remplir, il ne leur faut rien moins que l'infini. Alors tout de suite, cette vision. Quand il s'agit de ces trois dimensions de l'esprit, ces trois dimensions d'esprit ont en elles un appétit d'infini, une capacité d'infini. Et c'est bien ce qui est souligné ici. Elles sont d'autant plus profondes qu'elles sont plus capables de recevoir de grands biens. Pour se remplir, il ne leur faut rien moins que l'infini. Nous comprendrons d'une certaine manière parce qu'elles souffrent quand elles sont vides de Dieu, qu'elles sont leur joie et leur délice quand elles sont pleines de lui, car les contraires s'éclairent mutuellement. Donc souffrance de la privation de Dieu, parce qu'elles sont faites pour l'infini, elles ont besoin d'infini, et elles ne sont pleinement elles-mêmes que dans le contact d'infini. Alors là, vous voyez tout de suite, on voit comment ces trois dimensions, mémoire, entendement, volonté, sont immédiatement ordonnées à Dieu. Dans le climat d'un aspect mystique, et c'est très vrai, puisqu'il s'agit en réalité non pas de nos facultés, mais de nos facultés transformées par les trois vertus dialogales. L'espérance, la foi et l'amour. pas du tout d'un point de vue naturel, vous comprenez là. Il s'agit de voir cette capacité qui est en nous, cette capacité transformée par la grâce, qui fait qu'il y a immédiatement contact avec Dieu et immédiatement un désir de Dieu. Et que s'il n'y a pas ce désir de Dieu, s'il y a un manque, et ça c'est très beau, parce que ça explique beaucoup de choses, il y a privation. Et donc il y a un appel direct. Nous comprendrons d'une certaine manière, parce qu'elles souffrent quand elles sont vides de Dieu. La souffrance de la mémoire, de l'entendement, de la volonté, cette souffrance quand elles sont vides de Dieu, quelles sont leurs joies et leurs délices quand elles sont pleines de lui, car les contraires s'éclairent mutuellement. Remarquons tout d'abord que ces cavernes des puissances, quand elles ne sont pas vides, purifiées, exemptes de toute affection à la créature, ne sentent pas le vide immense de leur profonde capacité. Car la plus petite chose qui s'y attache sur la terre suffit pour leur créer de tels embarras et de tels charmes qu'elles ne sentent pas et ne regrettent pas la perte de biens immenses et ne connaissent même pas toute l'étendue de leur capacité. Alors ça, c'est très très fort, Saint Jean de la Croix. Et c'est très fort. Il suffit d'un tout petit point pour que immédiatement il ne peut plus y avoir cette même liberté. Pensez à ce que Sainte Thérèse disait, le petit oiseau qui a un fil à la patte. Et le fil à la patte qui est dans de la glu. Et qui fait que le petit oiseau n'est plus libre. Alors il vole éperdument, mais il ne dépasse plus une certaine hauteur. Parce que, de fait, il y a un lien avec quelque chose qui l'empêche d'être libre. Et c'est bien ça qu'il dit. Ça, c'est très, très, très important, point de vue profond. Et je crois que c'est pas uniquement du Saint-Jean de la Croix. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile. C'est ce qu'il y a de plus absolu, si vous voulez, dans cet amour avec le Christ. C'est quand Jésus parle, comment il faut le suivre. Celui qui veut aller enterrer avant de faire, il n'est pas digne de moi. C'est ce côté très impératif que nous voyons dans l'Évangile, de l'amour du Christ. C'est ça qu'il veut montrer en essayant de regarder ces trois aspects par rapport à la mémoire, l'entendement et la volonté. Remarquons tout d'abord que ces cavernes des puissances, quand elles ne sont pas vides, purifiées et exemptes de toute affection à la créature, ne sentent pas le vide immense de leur profonde capacité. Car la plus petite chose qui s'y arrête sur la terre suffit pour leur créer de tels embarras et de tels charmes qu'elles ne sentent pas et ne regrettent pas la perte de biens immenses et ne connaissent même pas toute l'étendue de leur capacité. Il suffit d'un rien pour que cet appel vers Dieu cesse. C'est ça qu'il veut montrer. C'est vide d'un rien. Ça fait que c'est volontairement, vous comprenez bien. Parce que quand c'est pas volontaire, c'est, mais volontairement, quelqu'un qui s'arrête et qui ne veut pas se détacher de telle ou telle petite affection à la créature, eh bien ça, c'est suffisant pour qu'il ne sente plus la souffrance de l'absence de Dieu. C'est ça qu'il veut montrer. C'est suffisant pour qu'il n'y ait plus cet appel vis-à-vis du Christ dans ce qu'il a d'absolu. Il y a quelque chose qui est terni et qui empêche. moins étonnante, le plus chétif des biens est suffisant pour les empêcher de recevoir les biens immenses dont elles sont capables de jouir. Elles doivent tout d'abord avoir exercé le détachement le plus complet, comme nous allons le voir. Et c'était bien ça sur lequel il insiste. Ça, c'est du Saint Jean de la Croix, dans ce qu'il y a de plus fort. Dans ce domaine-là, Saint Jean de la Croix a bien vu la taille du Père. Quand, en effet, les puissances sont complètement détachées et purifiées, la soif, la faim et le désir de leur sens spirituel est intolérable. Comme les estomacs de ces cavernes sont profonds, ils souffrent profondément dès lors qu'ils sont privés d'un aliment aussi profond que Dieu lui-même. Mais la soif de Dieu donnée comme la soif de cet aliment dont on a besoin, on ne peut être satisfait au plan le plus profond qui est en nous, c'est-à-dire au plan de l'esprit, que par Dieu. Dieu seul peut satisfaire. Mais, et Saint Jean de la Croix le reconnaît, il suffit d'un rien pour qu'il n'y ait plus cette soif. Cette souffrance excessive se manifeste ordinairement vers la fin de l'époque où l'âme achève d'être éclairée et purifiée avant son arrivée à l'union divine, où enfin son appétit spirituel trouve une satisfaction complète. Cet appétit spirituel étant purifié et détaché de toute créature ou affection à la créature, ayant perdu son penchant naturel, n'aspire plus qu'au divin. Il a fait le vide en lui-même pour se disposer à recevoir le divin. Et comme ce divin ne lui est pas encore communiqué par l'union avec Dieu, ce vide où il est et cette soif de Dieu lui causent des souffrances plus cruelles que la mort. Surtout quand il entrevoit quelque chose des rayons divins et que Dieu lui-même ne lui est pas encore communiqué. Les âmes dont nous parlons sont celles qui souffrent d'un amour impatient. Elles ne peuvent pas rester longtemps sans obtenir l'objet de leur désir ou mourir. Donc, c'est pour exprimer, si vous voulez, ce que saint Thomas dirait, l'appétit naturel au plan spirituel. Le désir de Dieu. Ça, c'est vraiment là qui touche. Saint Thomas, à sa façon, parle du désir naturel de voir Dieu. Ce désir naturel de voir Dieu, qui est quelque chose d'inscrit au plus intime de notre esprit, de notre intelligence et de notre volonté, et de la mémoire. C'est un appel constant, puisqu'il est naturel, vers Dieu, vers l'union avec Dieu, vers l'intimité avec Dieu, vers cet amour qui doit nous unir avec Dieu. Et si il y a une affection acceptée, voulue, c'est suffisant pour qu'il n'y ait plus cet appel. Oui, vertical et horizontal, hein, on voit très bien. Les deux perspectives, celui qui est tout entier tendu vers Dieu et celui au contraire qui accepte, ben oui, qu'il ne soit plus tendu vers Dieu. Et Saint Jean de la Croix souligne cette chose que Sainte Thérèse elle-même souligne et que tous les auteurs spirituels soulignent, qu'il suffit de peu de choses, mais peu de choses conscientes, hein, Et cet attachement trop grand à la créature empêche le petit oiseau de voler. Empêche cet appétit spirituel si profond d'aller jusqu'au bout. La première caverne dont nous parlons ici n'est autre que l'entendement. Quand il est complètement vide de tout créé, il éprouve la soif de Dieu. Cette soif est tellement ardente lorsqu'il est bien disposé que David, ne trouvant de meilleure comparaison, nous dit qu'elle est semblable à celle du cerf, qui, d'après ce que l'on raconte, est des plus prenantes, de même que le cerf soupire après les eaux vives. De même, mon âme soupire après vous, ô mon Dieu. Oui, c'est d'autant plus intéressant de voir que le texte de l'Écriture qu'il cite là, qu'il a choisi, c'est à partir de ce texte-là qu'il nous dit tout le reste, ne parle absolument pas de l'entendement. On parle de l'âme. Et c'est l'âme dont il s'agit. De même, mon âme soupire après vous, ô mon Dieu. Or, cette soif la porte vers les eaux de la sagesse de Dieu, qui est l'objet de l'entendement. Alors, le métaxu entre l'écriture et l'entendement, c'est cette soif la porte vers les eaux de la sagesse de Dieu, vers les eaux de la sagesse de Dieu. Là, on demeure dans un aspect, si vous voulez, qu'on peut saisir au plan spirituel, qui est l'objet de l'entendement. La seconde caverne est la volonté. Et quand elle est vide de tout créé, elle éprouve une faim de Dieu si vive qu'elle tombe en défaillance. Comme le dit encore David, mon âme tombe en défaillance parce qu'elle soupire auprès des tabernacles du Seigneur. Or, cette faim est la perfection de l'amour à laquelle elle aspire. La troisième caverne est la mémoire. Et quand elle est vide de tout créé, elle se consume et se fond dans l'attente de la possession de Dieu. Comme nous le dit Jérémie, je me souviendrai de vous, ô mon Dieu, et je garderai votre souvenir bien vif. Mon âme se desséchera lorsque je me rappellerai ces souvenirs dans mon cœur, et je mettrai en Dieu toute mon espérance. La capacité de ces cavernes est donc très profonde, parce que ce qu'elles doivent contenir n'est autre que Dieu lui-même, qui est profond et infini. Aussi cette capacité doit-elle être en quelque sorte infinie. Voilà pourquoi sa soif sera infinie. Sa faim sera également profonde et infinie. Sa défaillance et son tournant seront une mort infinie. Sans doute ses souffrances ne sont pas aussi intenses que celles de l'autre vie. Elles sont néanmoins une vive image de la privation de l'infini où l'âme se trouve, parce qu'elle est déjà disposée d'une certaine manière à en recevoir la plénitude. Ce tourment est d'une autre nature, parce qu'il se trouve au sein même de l'amour de la volonté. Et ce n'est pas l'amour qui allégera le tourment, car plus il est intense, plus aussi il est impatient de posséder son Dieu, sur lequel il aspire avec une ardeur toujours plus intense. Alors, il y a les deux, hein. Saint Jean de la Croix souligne un seul aspect, mais il y a les deux aspects, il ne faut pas l'oublier. Comme toujours quand il s'agit d'amour. C'est très vrai. Ce tourment est d'une autre nature parce qu'il se trouve au sein même de l'amour de la volonté. Et ce n'est pas l'amour qui allège le tourment, bien que l'amour allège le tourment aussi. Car plus il est intense, plus religieuse aussi, il est impatient de posséder son Dieu. On sent que c'est ça avant tout qui le voit. Que tant que l'âme, à travers ses capacités, ses cavernes, l'expression des cavernes pour bien expliquer le point de vue des puissances qui demandent d'être actuées par quelque chose d'autre qu'elles. Et cet esprit de vide qu'elles sont par elles-mêmes, ça c'est tout le réalisme de Saint-Jean de la Croix, là. Vous voyez, ça c'est très très net. Et vous ne pouvez absolument pas expliquer ça par le point de vue du néoplatonisme. C'est en dehors de ça, c'est beaucoup plus l'aspect de l'appétit naturel qui est tout à fait ce que saint Thomas nous dit, que saint Jean de la Croix souligne là. Oui. Si je regarde la théologie sous-jacente à ce que dit Jean saint Thomas, hein, cette théologie sous-jacente à ce que dit Jean saint Thomas n'est pas du tout ce que vous trouvez dans le néoplatonisme. C'est au contraire vraiment le point de vue de l'appétit naturel, c'est-à-dire cet ordre profond qu'il y a de l'entendement, de la volonté et de la mémoire vers Dieu, et qui ne peuvent être déterminés que par Dieu. Ô grand Dieu, puisqu'il est vrai que l'âme qui désire Dieu en toute sincérité possède déjà celui qu'elle aime, comme dit saint Grégoire, comment souffre-t-elle si elle le possède déjà? Saint Pierre ne nous dit-il pas que les anges qui désirent voir le Fils de Dieu n'éprouvent ni peine ni préoccupation parce qu'elles en jouissent déjà? Il semble donc que l'âme désire Dieu dans la mesure où elle le possède, et plus elle le possède, plus aussi elle en éprouve de délices et de jouissances. Ainsi en est-il des anges, leur désir est accompli, ils trouvent leur délice en Dieu qui est devenu leur possession. Ils ne cessent de rassasier leur désir sans éprouver le moindre ennui. Et parce qu'ils n'éprouvent pas d'ennui, ils désirent toujours. Et parce qu'ils sont toujours en possession du bien qu'ils désirent, ils n'ont aucun chagrin. Or, dans le cas dont nous parlons, l'âme trouve d'autant plus de satiété et de délices dans son désir de Dieu que ce désir est plus ardent, car par là, elle possède Dieu davantage, sans éprouver ni douleur ni chagrin. Pour comprendre cette difficulté, il faut bien remarquer la différence qu'il y a à posséder Dieu en soi par la grâce seulement, et à le posséder aussi par l'union avec Dieu. Dans le premier cas, il y a amour mutuel entre Dieu et l'âme. Dans le second, il y a en plus une communication intime. Alors c'est ces deux aspects qu'il va essayer de développer pour essayer de bien comprendre ce que représente cette union de l'âme avec Dieu. Dans le premier cas, donc, il y a amour mutuel entre Dieu et l'âme. Dans le second, il y a en plus une communication intime. Ces deux états différents l'un de l'autre, comme les fiançailles et le mariage. Dans les fiançailles, il n'y a qu'un consentement mutuel des parties et un accord entre leurs volontés. Et le fiancé donne gracieusement à son épouse des joyaux et des parures. Dans le mariage, il y a en outre la communication des personnes. Alors là, vous trouvez la personne. Eh bien, comme le temps des corps, c'est pour ça qu'il dit personne. Dans le mariage, il y a en outre la communication des personnes et l'union entre elles. Sans doute, le fiancé fait quelques visites à sa vie fiancée et lui porte des présents, comme nous venons de le dire. Mais il n'y a pas encore entre eux cette union qui est le but du mariage. Or, il en est absolument de même entre Dieu et l'âme. Mais il faut que l'âme soit tout d'abord parvenue avec ses puissances à ce degré de pureté où sa volonté, considérée dans sa partie inférieure et supérieure, est entièrement purifiée et libre de toutes ses affections et recherche des choses créées, et recherche des choses créées, donc purifiée de ses affections et recherche des choses créées. Il faut de plus qu'elle ait complètement donné son consentement à tout ce que Dieu veut. La volonté de Dieu est celle de l'âme. Ne faisant plus qu'un, par ce consentement spontané et libre, l'âme est arrivée à posséder Dieu par la grâce de sa volonté. Car c'est d'après son consentement que Dieu lui donne le vrai et entier consentement de sa grâce. Et alors là, c'est tout à fait, là aussi, ces deux aspects si importants. Simplement la promesse, les fiançailles. Les fiançailles, c'est la promesse. Rien de la réalisation. Mais c'est donné en espérance. Et le mariage, au contraire, la réalisation. Alors, on voit très bien comment il compare ces deux états au point de vue mystique, puisque c'est l'alliance de l'époux et de l'épouse. Les promesses qui sont faites dans l'espérance. Nous savons que Dieu, que Jésus nous attend, qu'il nous veut à lui. Alors on vit cette promesse, on vit cette attente, c'est les fiançailles. Et lorsque Dieu se donne, lorsque Jésus se donne, et qu'il y a l'union au plus intime de notre âme, dans l'entendement, dans la mémoire, alors, et dans l'entendement, la mémoire et la volonté, alors à ce moment-là, il y a une unité substantielle qui se fait. Et on pourrait parler là alors de personne aussi au plan mystique. Je crois. Et il ne le dit pas, mais on peut dire qu'il y a, à cause de cette union mutuelle et ce don mutuel, qui fait qu'il y a quelque chose de plus que uniquement dans la promesse, ce qui montre bien que l'union au niveau de l'amour étant substantielle transforme tout l'être. Tel est le haut état des fiançailles spirituelles de l'âme avec le Verbe divin. Le fiancé lui accorde de précieuses faveurs. Il la visite fréquemment, avec le plus grand amour, et la comble alors de grâce et de délices. Mais tout cela n'a rien à voir avec les biens qu'apporte le mariage spirituel, car toutes ces faveurs ne sont qu'une préparation à l'union du mariage mystique. Sans doute, toutes ces merveilles se passent dans l'âme quand elle est déjà très purifiée de toute affection créature. Car sans cela, nous le répétons, les fiançailles ne se célèbrent pas. Néanmoins, il faut à l'âme d'autres dispositions positives. Dieu vient la visiter et la comble de ses dons pour la purifier de plus en plus, l'embellir et la spiritualiser, afin qu'elle soit convenablement préparée à une si haute union. Il y mettra un temps plus ou moins long, car il tient compte des dispositions bien voir. Nous sommes moins familiers que lui avec ce passage-là. Et c'est très beau. Une fois qu'on les avait sortis de leur pays, de la maison de leurs parents, elle devait encore passer une année renfermée dans son palais avant de lui être présentée comme épouse. Une année de noviciat. C'est bien ça. Les 6 premiers mois, elle s'y préparait par certaines onctions de myrrhe et autres parfums. Et le reste de l'année, elles employaient des parfums plus précieux encore. C'est alors seulement qu'elles étaient admises auprès du roi. La comparaison de Saint Jean de la Croix. Ainsi donc, c'est durant la période des fiançailles qu'a lieu la préparation au mariage spirituel. Et lorsque les onctions de l'Esprit Saint sont très relevées pour préparer l'âme à l'union divine, alors arrivent d'ordinaire ces anxiétés si intenses et si délicates des cavernes de l'âme. Or, plus ces parfums sont une disposition prochaine à l'union, plus aussi ils rapprochent l'âme de Dieu. Voilà pourquoi ils lui font goûter Dieu davantage et lui en donnent une saveur plus exquise. Leur désir de Dieu est plus noble et plus profond. Et ce désir est la vraie disposition pour s'unir à lui. Oh, quelle belle occasion se présente maintenant pour prévenir les âmes que Dieu élève à ses onctions délicates, de bien considérer ce qu'elles font et entre les mains de qui elles se livrent pour ne pas retourner en arrière. Ce que nous dirons sera peut-être hors de propos, mais je suis profondément ému et touché de compassion quand je vois certaines âmes revenir sur leurs propres pas. Non seulement elles se dérobent à ces onctions divines qu'elles laissent passer inutilement, mais encore, elles en perdent le désir. Aussi, ne puis-je m'empêcher de leur montrer ce qu'elles doivent faire pour éviter un si grand malheur. Je m'arrêterai donc un peu pour développer ma pensée, mais je ne tarderai pas à revenir à notre sujet. D'ailleurs, toutes mes explications contribueront à nous donner l'intelligence des propriétés des cavernes de l'âme dont nous parlons. Cet enseignement est même tellement nécessaire, non seulement à ces âmes qui s'avancent avec tant de gloire, mais encore à toutes celles qui sont à la recherche du bien-aimé, que je tiens à en faire l'exposé. Il faut savoir, ça c'est les grands conseils hein, de Saint Jean de la Croix, il faut savoir avant tout que si l'âme cherche Dieu, son bien-aimé, qui est Dieu. Donc si, avant tout que si l'âme cherche Dieu, son bien-aimé, qui est Dieu, la cherche elle-même avec infiniment plus d'amour. Si elle lui envoie des désirs embrasés d'amour, qui lui sont aussi agréables que les parfums de myrrhe et d'encens, qui lui sont apportés par la petite nuée, le bien-aimé, de son côté, lui envoie le parfum de ses onctions. C'est par là qu'il l'attire et la porte à précipiter ses pas. Ce sont des inspirations divines, des touches délicates. Par le fait même qu'elles sont de lui, elles sont imprégnées de la perfection de la loi de Dieu et de l'esprit de foi. Et c'est en se conformant à cette perfection que l'âme se rapprochera toujours davantage de Dieu. L'âme doit donc comprendre que Dieu, par toutes ses faveurs, ses onctions et les parfums de ses onctions, n'a d'autre désir que de la préparer à d'autres onctions plus élevées, plus délicates, plus divines de lui. Il veut la faire parvenir à une disposition tellement pure et spirituelle qu'elle mérite son union avec lui. action substantielle en lui, avec toutes ses puissances. L'âme doit bien considérer que dans cette affaire, c'est Dieu qui est le principal agent. Voilà, c'est là. C'est ça, je crois, le premier conseil que donne Saint Jean de la Croix. C'est cette passivité. L'âme doit bien considérer, c'est toute la différence, vous voyez, entre le point de vue de la vie morale et de la vie divine. Dans la vie morale, l'éducation, c'est du cœur. Donc c'est le point de vue où on est cause seconde, donc principal agent, dans l'acquisition des vertus. Tandis qu'au contraire, ici, dans cette recherche de l'union de Dieu, et qui est l'exercice même des vertus théologales, et l'exercice même des vertus théologales sous la mouvance de l'Esprit Saint. La première chose, c'est de comprendre que c'est Dieu qui a les initiatives. Et ça, Saint Jean de la Croix insiste énormément dessus. Oui, si nous continuons l'exercice de méditation, nous arrêtons l'Esprit Saint. Puisque dans la méditation, nous sommes au second. On est qu'aux secondes et on est actif. Et donc on empêche l'Esprit Saint d'agir. C'est un passage sur lequel Saint Jean de la Croix insiste beaucoup. Le passage de la méditation à l'oraison. La méditation, vous voyez bien, c'est une œuvre qui est beaucoup plus facile. Parce que dès que nous méditons sur le texte de l'Écriture, nous méditons sur tel ou tel, ben nous méditons, c'est nous. On peut tous méditer si on a pas mal à la tête, si on a pas mal à l'estomac, si on n'a pas envie de dormir, si on lutte contre le sommeil, on peut toujours méditer. Mais il ne faut pas oublier que du temps de Saint Jean de la Croix, c'est le commencement où la méditation prend une très grande place et où Saint Jean de la Croix lutte contre cette méditation qui empêche l'union véritable avec Dieu. Alors il farouche vis-à-vis des directeurs de conscience qui laissent cette méditation prendre possession de toute la vie et qui empêchent alors la passivité. C'est pour ça que des actes d'adoration nous mettent plus vite dans un état de passivité que la méditation. Surtout quand on a une vie un peu philosophique et théologique. Puisque la philosophie et la théologie sont dans l'ordre de la méditation. La théologie est une méditation. Même quand c'est une théologie scientifique comme Saint-Thomas, c'est une méditation. Alors quand nous méditons et que nous sommes habitués à méditer, nous risquons de continuer. Alors c'est une méditation qui risque à ce moment-là d'être tellement forte qu'elle arrête et qu'elle empêche l'Esprit Saint de nous emporter. Là, le point de vue de l'oraison et l'intimité profonde avec Jésus réclame alors cette attitude de passivité. Qui est l'attitude première des vertus théologales. L'attitude principale des vertus théologales. Et surtout, encore une fois, lorsque il y a le souffle de l'Esprit Saint et des dons du Saint-Esprit. Mais c'est l'attitude première. Oui, c'est là, je crois, quelque chose de capital, ce que Saint Jean de la Croix très bien saisit. Ce que Saint Thomas dit à sa manière. En théologie scientifique, mais exactement de la même manière. Donc là, on peut dire qu'il y a exactement la même attitude. Pour Saint Jean de la Croix, pour Saint Thomas, l'oraison, c'est l'activité normale de notre vie théologale. Pour Saint Thomas, pour Saint Jean de la Croix, la soif, il l'a dit tout à l'heure, cette soif naturelle, d'être envahi par Dieu, donc de la contemplation. C'est ce qu'il y a de plus profond en nous. ce n'est pas l'exigence normale des vertus théologales. Alors là, c'est très grave, je crois, parce que c'est justement empêcher certains d'entrer dans cette intimité beaucoup plus profonde avec Dieu. Alors, on les laisse exprès dans la méditation. On leur dit, mais méditez, vaut mieux méditer, puisque autrement vous perdez du temps. Et c'est vrai qu'on a quelquefois l'impression de perdre du temps. Quand le Saint-Esprit est là, c'est très bien, mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, et qu'il nous laisse, ut humanum, on a l'impression de perdre du temps. Ce serait bien plus utile de prendre un livre de théologie, mais à lire ce livre de théologie. Je suis pas fait pour la raison, c'est tout. Puisque je ne suis pas fait pour la raison, je suis fait pour la méditation, ne perdons pas de temps. C'est ce que certains disent, il faut faire attention. Parce que c'est beaucoup plus facile du reste. Et c'est beaucoup plus facile de prendre un livre et puis se mettre à lire ce livre et puis de se mettre à méditer. Alors que l'Esprit Saint réclame de nous cette attitude de passivité, de remise in mano soi, dans les mains de Dieu. Alors, il y a un passage qui se fait, je crois, très vite pour ceux qui font des études de philosophie et de théologie. Parce que de fait, ils méditent tout le temps. Et le danger, c'est de continuer de méditer tout le temps, même en oraison. Et de continuer de méditer, dire, mais oui, c'est très bien comme ça. Le cours d'hier, il y a telle ou telle idée qui m'a frappé, je continue, j'ai le temps, voilà. Puis personne ne me dérange, je suis tranquille. Alors, vous transformez vous-même le temps d'oraison en un temps de méditation. Et c'est une manière de se récupérer, très subtile. Parce que quand vous êtes au contraire dans une attitude de passivité, vous ne vous appartenez plus. Et ce temps ne vous appartient plus. C'est plus votre bien. Il est offert. Il est donné. Et alors, à ce moment-là, Dieu peut nous prendre. L'Esprit Saint peut réaliser son œuvre. Et c'est cela que Saint Jean de la Croix souligne avec tellement de force. Et on sent que pour lui, c'est capital, ça, de bien comprendre.
Les trois grands obstacles. L'être spirituel est bien placé.